parasitose. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un décideur. Alors je suis désolé pour ceux qui cherchaient à en trouver, ce ne sera pas moi. Par contre j'en connais beaucoup, j'en croise souvent. On nous pose plein de questions. C'est pour ça que cet exposé s'appelle « Point de vue de décideur ». Même si ce n'est pas le mien, je vais relater quelques éléments qui remontent souvent à la DGEC. Alors pourquoi ça remonte à la DGEC? Parce que ça s'appelle Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et donc nous sommes en charge, pour le compte du ministère de l'Écologie, Développement Durable et de l'Énergie, de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques en matière climatique. Alors au niveau de l'ONERC, on ne fait pas tout ça, on n'a pas autant d'ambition. Au sein de l'Observatoire National sur les effets du réchauffement climatique, rattaché à la DGEC, on a en charge le suivi du plan national d'adaptation au changement climatique, donc qui a été adopté en juillet 2011. On a en charge aussi le pilotage de l'évaluation, pas l'évaluation elle-même, mais le pilotage de ce plan-là. Et puis on se prépare à la suite, parce qu'il y aura une suite, nous espérons. Et on reviendra un peu plus tard sur ces points. Alors avant de parler d'incertitudes et de décisions, il faut quand même rappeler le contexte de l'adaptation. Alors ça paraît tout bête, mais la Terre c'est un système complexe, composé d'autres sous-systèmes complexes, qu'ils soient physiques, biologiques ou humains. Donc les systèmes physiques, c'est le climat, c'est l'atmosphère, c'est l'océan, c'est la Terre aussi, au sens géologique. Il y a des sous-systèmes complexes qui sont biologiques, qui soient humains, en termes d'activité économique et sociale, en termes comportemental. Et puis tous ces sous-systèmes ne sont pas indépendants, ils ont des interactions entre eux. Donc c'est toujours difficile d'en isoler un et de n'en étudier qu'un pour se servir de base de décision sur un autre sous-système. Malgré tout, les capacités humaines font qu'il faut diviser quand même les problèmes pour pouvoir chercher des solutions. Donc, au fur et à mesure où les connaissances avancent, les personnes en charge de l'étude des sous-systèmes se spécialisent. Malgré tout, à un moment donné, il faut quand même rassembler tout ça. Donc, à ce titre-là, on peut saluer l'initiative de ces deux jours du GIS Climat et du GICC et du NSS qui nous accueillent ici et qui permettent à des acteurs trop souvent séparés de faire une partie du chemin chacun, comme il a été dit ce matin, que les scientifiques fassent une partie du chemin, que les décideurs fassent une partie du chemin ou que les porte-parole des décideurs ou les aides à la décision fassent une partie du chemin. Alors dans ces sous-systèmes complexes, il en est un petit peu particulier, qui est le sous-système France, qui est un sous-système éclaté sur un plan géographique et qui a une dimension mondiale de par sa répartition. Donc l'adaptation au changement climatique, ça concerne tous ces territoires, ça concerne le fonctionnement de notre société, donc en fait ça touche tout. Alors je ne sais pas si le climat va être le prétexte à modifier la gouvernance du monde. Ça a été abordé ce matin, nous n'avons pas cette ambition. Maintenant, si nous pouvons arriver à améliorer la gouvernance de la France, c'est notre objectif. Bah, c'est pas le mien, je suis pas un décideur. Donc, au niveau de la France, il y a pas de sensibilisation qui est préalable à la prise de décision. On peut considérer qu'elle est en grande partie derrière nous, même si elle n'est pas derrière nous pour tous les acteurs, mais beaucoup de gens sont sensibilisés. Et c'est les personnes les plus sensibilisées ne sont pas forcément les décideurs. On a entendu ça ce matin aussi et je partage cet avis. Au niveau des personnes qui étudient les sciences sociales sur le terrain, se sont aperçues que les particuliers souvent ont une conscience du problème et des enjeux qui est très très pointue. Alors quelle est la légitimité de l'action publique en termes d'adaptation au changement climatique? C'est très simple, c'est la protection des personnes et des biens pour aujourd'hui et pour demain. Alors c'est très simple à énoncer, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Alors grâce au progrès de la science et notamment aux projections climatiques, on est en capacité de planifier un certain nombre de choses. Alors comme on sait qu'il y a beaucoup de travail et que la tâche est immense, on s'est décidé, les décideurs ont décidé de s'attaquer au problème à tous les niveaux en même temps, au niveau national, au niveau régional, au niveau territorial et même au niveau européen. Donc ça rend les choses très compliquées, mais ça permet d'avancer ensemble et de construire des processus qui ne sont pas faciles, mais en concertation. Donc au niveau national, des documents ont été produits, comme la stratégie nationale d'adaptation, le plan national d'adaptation. Au niveau régional, des schémas régionaux climat, air, énergie sont en cours d'élaboration. Certains ont même été adoptés. Les plans climat, énergie, territoriaux, certains sont déjà élaborés, d'autres sont en cours d'élaboration. La stratégie européenne devrait être adoptée pour mars 2013. Donc je détaillerai peut-être pas beaucoup l'aspect territorial, puisque Marie-Antoine le fera tout à l'heure. Mais c'est pas tout. De nombreux acteurs n'ont pas attendu que l'État se saisisse du problème pour agir. Les agendas 21 existent depuis un certain nombre de temps. Certains contiennent des mesures d'adaptation qui ne sont pas toujours identifiées comme telles. On observe aussi des initiatives collectives, notamment dans des ONG qui fédèrent quelques actions, et puis des particuliers qui décident eux-mêmes de leur propre chef de s'adapter. Alors, quelles sont les questions que posent les décideurs fréquemment ? La première, elle est très précise, elle est très claire. Comment adapter le territoire au changement climatique ? Alors, évidemment, on ne peut pas répondre à cette question facilement. Par contre, on peut essayer de faire appréhender les choses, notamment la complexité de l'opération, et d'expliciter les connaissances robustes. Alors, des connaissances robustes, il y en a. Des incertitudes, il y en a aussi. Ce qui est important aussi d'expliciter, c'est que l'incertitude, enfin une partie des incertitudes, contribue de la connaissance. Et certaines incertitudes, comme on l'a vu hier, comme on l'a entendu ce matin, sont irréductibles. Donc s'abriter derrière les incertitudes pour ne pas agir, c'est une démarche stérile, puisque ça conduira à ne jamais agir. Donc autant l'appréhender tout de suite. Il faut faire avec l'incertitude. Il y a une partie qui est nécessaire, une partie qui est irréductible. Il faut l'appréhender. Alors comment on peut l'appréhender ? Déjà en demandant aux scientifiques de les caractériser. Donc ça, c'est les travaux, une grande partie des travaux que nous avons vus hier. Ça peut être, les incertitudes peuvent être caractérisées en fonction des sources, en fonction de la manière de les exprimer, qu'elles soient en termes de probabilité fréquentiste ou en termes de probabilité bayésienne. Donc c'est des choses qui sont très importantes, parce que le décideur, en fait, va poser une question fréquentiste et va prendre une décision avec une approche bayésienne. En fait, le décideur va vous demander « Dites-moi quel temps il va faire et après, moi, je me débrouille, je saurai m'adapter. » Alors, quand on nous pose ce genre de questions, qu'on amène le décideur à comprendre que la décision doit suivre un processus et lui proposer un cadre méthodologique adapté à l'objet de son étude. Alors typiquement, la manière dont on va traiter un paramètre comme la température ne va pas être la même si on cherche à s'adapter les questions de canicule, si on cherche à adapter un process industriel en termes de refroidissement, ou si on cherche à se prémunir de quelque chose qui met en jeu la sécurité des personnes et des biens, ou l'atteinte à la santé, comme les îlots de chaleur urbains, même hors période canicule. Donc l'appréhension d'un paramètre, finalement, va être déclinée dans un deuxième temps en éléments de gestion du risque. Donc une fois qu'on a fait comprendre qu'il y avait toute une démarche méthodologique, donc qui en fait revient à ce qu'a présenté Stéphane Algade ce matin, le mode de décision robuste, la question suivante, c'est comment préparer l'action malgré les incertitudes, puisqu'on a expliqué que les incertitudes étaient inhérentes au processus, donc il fallait faire quand même quelque chose. Alors la première étape, c'est d'identifier réellement ce qu'on cherche à faire, donc l'objet considéré, et d'analyser les vulnérabilités qui sont associées à cet objet, et notamment les seuils qui peuvent correspondre à des seuils de fonctionnement normaux, nominaux, des seuils de fonctionnement dégradés, des seuils de fonctionnement critiques et des seuils de non-fonctionnement. Donc une fois qu'on a fait cette étude de vulnérabilité, ou que les bureaux d'études ou que les scientifiques ont contribué à cette étude de vulnérabilité, très souvent on s'aperçoit que déjà l'objet n'est pas adapté au climat présent. Ça, c'est une première étape. Donc souvent il y a des mesures correctrices qui arrivent assez vite. Typiquement, c'est la canicule en 2003. On a très bien vu que la France n'était pas adaptée au climat présent. Il y a eu un plan canicule qui a eu plusieurs versions. La dernière version nous sera présentée demain après-midi. C'est un processus itératif qui s'enrichit au fur et à mesure. C'est très important. Le fait que le processus soit itératif et puisse s'enrichir au fur et à mesure, ça contribue à la capacité d'adaptation. Donc c'est en soi de l'adaptation. Alors, une fois qu'on a identifié les vulnérabilités, ce qui est important, c'est de définir les vulnérabilités dont on veut se prémunir, quels que soient les scénarios. Si c'est un problème vital, si je veux prendre aucun risque, bah forcément, je vais prendre le scénario pessimiste, les projections les plus pessimistes, le scénario le plus pessimiste. Si j'arrive à des coûts qui sont des coûts d'investissement nécessaires pour arriver à ça, qui sont très importants, je vais me reposer la question. Et à ce moment-là, ce sera une question en termes d'opportunité. Est-ce que je vais chercher à m'adapter ou est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres options? Donc ça, c'est tout un panel d'options qui sont à mettre à disposition des décideurs. Alors, c'est des options qui se construisent, dont certaines ne sont peut-être pas forcément accessibles aujourd'hui. Et cette analyse économique derrière est importante. Nous allons la voir juste après. Mais juste avant de parler de l'analyse économique, il faut parler d'un point très très important, qui est l'analyse des transferts de vulnérabilité. C'est important d'identifier ses propres vulnérabilités, mais il ne faut pas que nos actions d'adaptation rendent plus vulnérables celles du voisin. Notamment si ce qu'on cite souvent, notamment dans les discussions avec les pays étrangers, imaginez qu'en France on cherche à fixer les dunes dans la région de Dunkerque et que ça augmente l'érosion en Belgique. Est-ce que vous pensez que les Belges seront contents? Je pense qu'on a tous la réponse. Alors une fois qu'on a identifié des options, la troisième étape, c'est d'évaluer l'impact des actions d'adaptation sur la vulnérabilité et le coût de ces actions par rapport à l'efficacité sur la réduction de la vulnérabilité. Alors comme vous l'a expliqué Stéphane ce matin, il y a un certain nombre d'outils comme des analyses coût-bénéfice, des analyses coût-efficacité, la définition des valeurs d'options ou l'identification des valeurs d'options. Et ce sont des méthodes en cours de construction aujourd'hui avec des critères à définir. Donc ce sont des objets dont on n'a pas encore de mise en œuvre qui nous satisfasse. Donc c'est des choses que la France ne construit pas tout seul dans son coin. Nous sommes en discussion avec les pays étrangers aussi, notamment les Allemands et les Suisses sur ces questions. Alors le dernier point que vous voyez écrit ici, c'est quand même le développement de capacité d'adaptation ou le maintien de capacité d'adaptation. C'est très important puisque si on a une grosse incertitude sur l'efficacité de ce qu'on est en train de faire, il faut être capable d'ajuster le tir pour l'étape suivante. Donc le maintien des capacités d'adaptation est très important. Alors malgré tout ça, vous avez vu que, enfin vous le saviez déjà intuitivement, que toutes ces questions d'adaptation sont évoluent dans des systèmes complexes. Les incertitudes liées aux projections climatiques sont sans doute les moins élevées de toutes les autres. Et malgré tout, on peut quand même faire des choses. Et c'est important de le savoir, et c'est important de les identifier. La première des choses, et la première action d'investissement, c'est de développer les connaissances et les méthodes d'analyse. Et ça, c'est très important, parce que si on ne fait pas ça, bah dans 10 ans, on sera au même stade qu'aujourd'hui, sauf que l'urgence, ça sera plus importante. Donc, dans l'intervalle, le minimum qu'on puisse faire, c'est de développer les connaissances et les méthodes. Et pas uniquement sur les questions de vulnérabilité, impact et adaptation, mais aussi les connaissances amont en termes de modèles conceptuels au niveau atmosphérique, comme on l'a vu hier avec les questions de microphysique des nuages, des choses comme ça. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur les questions de vulnérabilité, impact, adaptation, mais il faut aussi conserver une forte implication dans la recherche amont. On peut investir aussi dans le transfert de connaissances pour que les acteurs de l'adaptation aient accès à ces connaissances et ces méthodes, notamment par l'intermédiaire de séminaires comme aujourd'hui, et de manière plus large par tout ce qui contribue à l'échange et à la formation. On peut dès à présent faire des études de vulnérabilité, identifier ces vulnérabilités à différents paramètres, en dehors de toute projection climatique, on peut déjà identifier. On peut se rendre compte si on est vulnérable à une augmentation de température, un déficit en eau, un problème d'accès à la ressource en eau. C'est des choses qui sont pas compliquées aujourd'hui, qui ne mettent pas en jeu les projections climatiques, enfin, pas toujours. Donc on peut identifier les vulnérabilités aujourd'hui, les vulnérabilités futures, dans une deuxième étape. Donc ça, c'est très important. Ça permettra aussi de savoir dans quel secteur on va vouloir agir dans un deuxième temps. Et puis, quatrième point qui est un facteur d'optimisme pour nous, qui est un point d'information, de communication, de formation, d'éducation. Alors, je n'ai pas dissocié ces quatre points parce que pour nous, ça va ensemble. Et le fait de parler d'adaptation, au-delà de l'effet de mode qui a eu lieu effectivement il y a quelques années, qui peut encore persister, notamment dans certaines instances internationales, on remarque que la question du changement climatique progresse dans les consciences. Et comme on l'a entendu ce matin déjà, donc la question de l'intégration, ou plutôt de l'incorporation de l'adaptation au changement climatique dans les processus de décision, c'est une question de formation, ça peut être une question générationnelle si ça demande du temps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles primaires, les enfants sont sensibilisés au changement climatique. Mais on ne peut pas attendre que cette génération-là devienne une génération de décideurs pour passer à l'action. Mais c'est un facteur d'optimisme pour la suite. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait toutes ces études de vulnérabilité, et dans l'état des connaissances actuelles, on peut au moins investir dans les mesures sans regret. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui. Alors le problème, c'est que la prise de décision s'effectue dans un contexte beaucoup plus large que l'adaptation au changement climatique. Les décideurs prennent en compte beaucoup de choses, je ne vais pas tout lister, c'est pour ça que vous voyez un etc. à la fin. Une des premières choses qui est prise en compte, c'est l'opinion publique. C'est pour ça que l'information, la communication, l'éducation et la formation qui permettent de faire progresser le niveau de compréhension de l'ensemble de la population est vraiment très important. L'opinion publique peut arriver à faire évoluer des positions politiques, donc c'est très important. Malgré tout, l'opinion publique aujourd'hui, comme on l'a aussi vu ce matin, décidément, je ne sais pas pourquoi je vous parle, parce que on a déjà tout vu ce matin, le changement climatique n'est pas dans les sujets de préoccupation majeurs, puisqu'on l'a vu arriver en 12e ou 13e position. Je vais essayer de compter, mais je me suis perdu, donc c'est qu'on était assez loin. Et donc la situation économique que vous voyez en dessous préoccupe beaucoup plus les gestionnaires de territoire aujourd'hui que l'adaptation au changement climatique. Et c'est normal, mais on peut coupler les deux. Donc c'est important d'inclure quand même le paramètre changement climatique, adaptation au changement climatique, dans la réflexion. Alors un autre paramètre dont on parle beaucoup moins, qui est l'évolution démographique. Effectivement, on est soumis à l'évolution démographique. Des pays comme la France ont subi leur transition démographique. Mais pas partout. Dans certaines collectivités d'outre-mer, la transition démographique n'est pas achevée. Dans d'autres pays dans le monde, la transition démographique est en cours. Dans certains pays, on a même une planification démographique, comme en Chine, avec la politique de l'enfant unique. Pardon, j'allais dire de l'adaptation unique. La politique de l'enfant unique. Alors la question démographique, c'est quelque chose de très préoccupant, puisqu'on peut corréler beaucoup de choses avec l'évolution de la population, et heureusement que les projections de démographie qui étaient faites il y a 30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors dans un territoire, on va aussi analyser l'offre de transport, l'offre de logement, l'attractivité du territoire ou la compétitivité d'une filière. Alors c'est des points dont vous parleront Marie et Jean-Yves tout à l'heure. Alors au niveau des acteurs économiques, les acteurs économiques n'ont pas attendu que l'État se mêle de questions de l'adaptation au changement climatique pour s'en mêler eux-mêmes, tout simplement parce que ceux qui ont des durées d'investissement qui sont assez longues ont intégré ce paramètre depuis très longtemps, puisque c'est un risque dont ils ne veulent pas se prémunir, mais ils adaptent leurs investissements avec le niveau de risque qu'ils peuvent avoir à faire face dans l'avenir. Donc dans le monde de l'entreprise, ça s'appelle la gestion du risque global, et dans la gestion du risque global, il y a un paramètre, changement climatique. Et bien de la même manière, dans les politiques publiques, il faudrait qu'il y ait un paramètre, changement climatique, dans chacune. Alors on n'en est pas encore là, on y travaille beaucoup pour faire progresser la question. Et on a quelques sujets de vigilance. Alors le premier, c'est le thème de ces deux jours, c'est les incertitudes qui ne doivent pas être un prétexte à l'inaction. Cet argument-là, c'est une forme de climato-scepticisme. Une fois qu'on sait que l'incertitude est inhérente, au moins à la variabilité interne du climat, attendre d'être certain pour agir, ça veut dire je n'agirai jamais. Alors il peut y avoir un problème de formation, de compréhension, mais une fois que cette étape est franchie, c'est de la négation du problème. Il faut lutter aussi contre l'usage simpliste des informations scientifiques. Une information scientifique, ce n'est pas qu'un paramètre projeté à l'avenir, ne serait-ce ni déterministe, ni ensembliste, ni probabiliste, même si on n'est pas encore capable de faire des projections probabilistes compte tenu des niveaux de des puissances de calcul que ça requérait. Mais malgré tout, quelle que soit la complexité de la présentation de l'information en termes de projection, une projection doit être accompagnée d'une expertise. Une projection seule n'est pas utile pour le décideur, ne serait-ce que parce qu'il ne saura pas ce qu'il y a dans un modèle. Donc c'est important d'avoir une donnée scientifique, d'avoir une expertise scientifique, et de coupler les deux. Évidemment, on va être très vigilant à la question du transfert de vulnérabilité, que ce soit entre la France et la Belgique, ou entre Rhône-Alpes et les Bouches-du-Rhône. Ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre des formes d'un groupe social à un autre, ça peut prendre des formes d'une filière à une autre, donc ça nécessite de prendre du recul et d'être au courant de ce qui se passe dans à peu près toutes les filières, en termes économiques, et dans à peu près tous les secteurs, pour que l'action d'adaptation d'un secteur, comme les retenues collinaires dont nous a parlé Florence Abetz hier, qui ont souligné le problème d'accès à la ressource en eau, si tout le monde fait des ressources collinaires partout, il n'y aura plus d'eau dans les rivières, on ne pourra plus refroidir les centrales nucléaires. Après, à vous de choisir si vous voulez manger du maïs ou éclairer la lumière. Il faut se méfier des effets rebonds, construire des systèmes de défense, c'est un aménagement utile dans certains cas. Il ne faut pas que ça augmente la densité urbaine derrière le système de défense, sinon ça augmente aussi la vulnérabilité, peut-être même plus vite que ce qu'il faudrait. Et la question que tout le monde se pose et dont personne n'a la réponse, comment on va financer les investissements? Alors pour l'instant, on finance surtout le développement des connaissances pour que quand on sera en mesure de savoir dans quoi on veut investir, on puisse dimensionner les ouvrages, si c'est une question d'ouvrage, on puisse dimensionner les investissements physiques, on puisse les provisionner, on puisse décider du meilleur moment pour investir. Et puis tout ça ne doit pas masquer que les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ça reste la priorité. Et que si on veut être capable de s'adapter, il va falloir quand même réduire les émissions de manière significative. Je vous remercie.